Chapitre 5 La justice humaine. La nuit qui suivit le jugement rendu contre Clerps et Gabriel ne vit pas un seul homme endormi dans Madras, depuis le pont des Arméniens jusqu'à l'édifice neuf nommé le Panthéon. Il y a aussi un Panthéon à Madras. Depuis que les hommes s'efforcent de supprimer Dieu, ils bâtissent des Panthéons partout. L'exécution devait avoir lieu le lendemain, à l'heure où le Beraïdjé attelle les bœufs au Tangigel de voyage, où le batteur de riz descend à la plaine de Tolstrie pour gagner le pain de son jour. Dans ce torrent animé de visages de démons qui se ruaient vers la place des potences, on n'apercevait aucune trace de lassitude, quoique les orgies infernales de la nuit dernière eussent été dignes du dieu Kishla. Chez nous, peuple à face blême, la chair souffrante révèle à l'extérieur l'épuisement des forces. Mais ces carnations de bronze que boucane le soleil indien ne trahissent aucun secret. On croirait voir des liasses de dianes damnées dont les corps se sont colorés aux flammes de l'enfer et qui, revenus sur la terre, n'ont repris à l'homme que ses passions en lui laissant sa faiblesse. À chaque centre de ces tourbillons d'êtres surnaturels qui s'élançaient à la cime de leurs bambous et pirouettaient avec eux en sifflant comme des boas, on aurait pu voir, se multipliant partout, deux Indiens gigantesques dont les yeux semblaient lancer les gerbes de feu du Bengale et dont la voix tartaréenne excitait ce monde en délire, ivre du feu de la débauche et des liqueurs. Ces deux êtres surhumains savaient les paroles qui crispent les pieds de l'Indien et le font bondir comme un tigre de la tanière au vallon. L'un était ce goulab qu'on aurait pris pour Vishnu incarné une onzième fois en éléphant, et l'autre ce Mirpour qui avait sur son corps la souple ondulation de la panthère et sur sa face les contractions rudes et nerveuses du lion. Un intérêt mystérieux avait mêlé ces deux monstres humains au Saturnal de cette nuit. Ils étaient sortis dans un costume indigent de leur superbe habitation de la rivière Triplicam, sur la route d'Elora, et ils avaient entraîné tout le peuple de la ville noire à travers les rues et les places de Madras, poussant avec lui de formidables cris de réjouissance en l'honneur des juges qui vengeaient sur deux Européens la mort du nabab de Timbeli. Le soleil vint éclairer la fête de ces démons qui remplissaient, comme les flots orageux d'un lac de bronze en fusion, la vaste place où le bourreau attendait les condamnés. À quelques pas des potences, Goulab et Mirpour dominaient les têtes indiennes et attachaient les yeux sur le carrefour lointain où le funèbre cortège sorti de la prison devait se montrer à chaque instant. Les heures, pourtant, s'écoulaient et les criminels ne paraissaient pas. Le bourreau, debout sur le haut estrade, donnait des signes d'impatience et promenait ses regards de l'horloge publique au soleil. Parfois apparaissaient deux cavaliers de la milice à l'extrémité de la place, et les Indiens, trompés, saluaient cette avant-garde par une explosion déchirante de râles aigus, semblables à une symphonie de tigres. Puis le silence retombait sur cette multitude, et la soif du sang qui la dévorait ne se manifestait plus que par des ondulations de têtes d'airain qui semblaient excitées par le vent du golfe de Coromandel. Enfin, un roulement de tambour annonça l'arrivée de la milice, et les canons de la batterie du fort s'allongèrent sur les créneaux. Un cavalier, lancé au galop, passa entre les deux haies de miliciens inconnus, hindous, et remit un pli au bourreau de Madras. Celui-ci lut avec lenteur l'ordre qui lui était envoyé, et fit un sourire stupide et féroce, un sourire qui ne se forme que sur les lèvres de bourreau. Puis il souleva une liasse de cordes, la posa nonchalamment sur les épaules d'un de ses valets et descendit de son estrade. Il donna un regard mélancolique d'adieu à ses potences, comme s'il eût été désespéré de voir que de si beaux instruments, si fièrement posés par sa main, allaient rentrer sous le hangar sans avoir fonctionné, comme deux indolents laboureurs qui s'en reviendraient du sillon en laissant les épis debout. Goulam fit un bond de sa place au pied des potences et interrogea le bourreau. Celui-ci ne répondit qu'en montrant la lettre et haussant les épaules de l'air d'un homme qui accusait d'injustice les dispensateurs du pardon. Des murmures stridents s'élevèrent aussitôt dans la populace. On enlevait une proie à cette armée de tigres. Cette injustice, exercée effrontément contre un pauvre peuple affamé de chair humaine et chassé de la table du festin, allait amener une insurrection. Mais il ne fallut qu'un mouvement de soldats et une lueur de mèche dans la batterie du fort pour mettre en déroute ces hideux convives avant le premier cri de révolte. Goulam et Mirpour se perdirent dans les tourbillons de la foule. Une terreur de mort les glaça tous deux. Des pressentiments sinistres les éclairèrent confusément sur la scène mystérieuse dont ils venaient d'être témoins. Ces deux hommes fauves que la fortune avait élevés de la tanière au palais et de la nudité sauvage au luxe du nabab s'estimèrent heureux de se retrouver dans leur costume primitif, avec cette différence pourtant que leur large ceinture recelait une somme énorme en quadruples espagnols. N'osant plus rentrer à leur habitation de peur d'y rencontrer quelques révélations accablantes, ils s'enfoncèrent dans le désert qui mène aux solitudes sacrées des temples d'Elora, résolus d'y attendre les événements à la faveur d'un espionnage qu'il leur serait aisé d'établir et de trouver parmi les frères indiens fanatiques sectateurs de Shiva. À l'aube de ce jour, un riche indien, surnommé Talai Peri ou Grand Prévôt, et frère de Munusami, s'était présenté chez la tournée générale pour une communication qui ne souffrait aucun retard. Le magistrat fut réveillé en sursaut par les cris de désespoir que poussa l'Indien lorsque les domestiques refusèrent de l'introduire sous prétexte que l'audience ne commençait qu'à midi. La tournée sonna et, apprenant que le solliciteur était son prédécesseur avant la colonisation anglaise, il lui fit ouvrir sa porte et, dans le plus simple des négligés, il voulut bien lui accorder, hors l'heure, une audience extraordinaire. Talai Peri, revêtu d'un costume européen des plus élégants, se précipita dans la chambre de Latournai avec un visage dont la pâleur semblait percée sous sa couche de bronze. « Justice, justice !» s'écria l'Indien. « Honorable Latournai, justice !» « Vous la trouverez toujours ici, » dit le magistrat. « On va exécuter Claire Saint-Gabriel ?» demanda Talai Peri avec une inquiétude fiévreuse. « Oui, dans quelques heures. »« Mais ils sont innocents, innocents !»« Mais ils sont condamnés. »« Ils ne sont pas morts, honorable Internet, ils ne sont pas morts. »« Oh, ils sont morts aux yeux de la justice. » « Alors ils vivront !» s'écria l'Indien. « J'ai exercé 15 ans dans la ville noire les fonctions de grand prévôt, et mon nom a toujours été salué comme juste. Je suis le frère de Munusami, et lorsque je viens vous arracher de telles innocentes, deux jeunes gens accusés du meurtre de mon frère, je mérite d'être écouté. « Monsieur, dit Latournai, vous perdez votre temps. » « Glaps et Gabriel sont innocents, dites-vous, mais avez-vous entendu mon plaidoyer d'hier ?»« Non, your lordship. »« Ah, si vous l'aviez entendu, vous ne viendriez pas me faire un drame à la pointe du jour. »« Tenez, je vous prie de jeter un coup d'œil sur ce journal, c'est l'Evening Chronicle de Madras. Vous y lirez mon discours. »« Mais, honorable Latournai, si malgré votre discours, mon frère Munusami venait en personne vous dire que Gabriel et Cleps ne l'ont point assassiné. » Le magistrat recula de 3 pas et laissa tomber le journal. Moulousabi, votre frère, n'a pas été assassiné ? S'écria la Tornée du ton de l'homme qui redoute plus une blessure à travers son amour-propre qu'il ne souhaite la résurrection d'une victime pour laquelle il a plaidé. Ben, malheureusement, Your Worship, mon cher frère est mort. Mais voici une lettre qui décharge complètement Clancy Gabriel et fait retomber sur d'autres la responsabilité du crime. Et qui a écrit cette lettre ? Mon frère, mon Oussami. Celui qui est mort ? Oui, adorable Attorney. Mais êtes-vous fou, notre ancien grand prévôt ? Et voici la lettre, ayez la bonté de la lire, honorable Attorney. Hier, en mettant de l'ordre dans les papiers de mon frère, j'ai trouvé cette lettre exposée bien en relief pour être découverte à la première perquisition. Elle est à votre adresse comme à la mienne. Le temps presse, lisez cette lettre au nom de Dieu. Le magistrat haussa les épaules et lut la lettre de Mounoussami. Cette lettre était datée de la veille du jour qui vit disparaître l'Indien dans les ténèbres mystérieuses de la rivière de Lutschmi. Elle était ainsi conçue. Mon bien-aimé frère, nous partons demain matin pour chasser le tigre entre le mont des bergers et les gorges de Ravana. Depuis un an, je vis avec deux hommes qui veulent me perdre et qui jouent avec moi un jeu plein de ruses et d'embûches. J'attends un hasard heureux qui les dévoile et je les écrase sous mes pieds comme deux serpents. Je ne connais malheureusement qu'une partie des 1000 pièges dont ils m'entourent dans ma propre maison, mais je veux enfin leur fournir l'occasion de se déclarer nettement mes ennemis. Ils parlent depuis 3 mois d'une chasse au tigre avec tant d'obstination qu'ils me font présumer que leur plan d'attaque ouverte est attaché au jour de cette chasse. Je veux donc en finir avec eux. La chasse aura lieu demain. Il y a dans notre caravane beaucoup de poltrons. Cela ne m'inquiète guère. Je n'en attends ni hostilité ni secours. Je compte d'abord sur moi, et après moi sur 2 jeunes voyageurs, un Anglais et un Français, qui pour l'honneur de leur nation ne se feront jamais les complices de mes 2 scélérats. Quant aux PO, ce sont des esclaves indiens. Le feu d'une amorce les mettra sur les ailes du vent. Mes brigands se nomment Goulam et Mirpour. L'un a été pris de ma femme, l'autre a commis un vieux crime à Calcutta, de complicité avec son ami, et ils continuent mutuellement à se servir pour exploiter d'autres horreurs. Si demain je succombais dans cette chasse, il ne faut pas que la justice s'égare. Les assassins ne seront pas impunis. Je les dénonce d'avance sous les noms de Goulab et Mirpour. Allez, adieu, mon cher frère. Je désire, en écrivant cette lettre, que vous ne la lisiez pas. Mounoussami, à l'habitation du lac. Lecture faite, Latournay retourna la lettre en tous les sens et ramassa l'Evening Chronicle. Il relut son discours, confronta les 2 pièces, et après avoir balbutié quelques monosyllabes entrecoupées de pauses, il s'éleva jusqu'à la phrase complète. « Mon grand prévôt, dit-il, êtes-vous bien sûr que cette lettre soit de votre frère ? Reconnaissez-vous sa main ? Oh, si je la reconnais, tenez, honorable Attorney, voici 100 lettres de mon frère dans ce portefeuille. » Appelez 20 négociants de Madras, montrez-leur l'adresse de cette lettre, et vous verrez si du premier coup, ils ne nomment pas Mounoussami. Ah, c'est qu'il faut agir avec précaution dans ces sortes de cas. Je connais mon devoir, la chose jugée. Bon, je vais mander sur le champ les banquiers, les négociants du voisinage. Mais avant tout, honorable Attorney, faites suspendre l'exécution. Oh, il n'y a rien à craindre, nous avons encore plusieurs heures. Il sonna, 2 domestiques parurent et il leur donna ses ordres. En attendant les banquiers et les négociants, Latournay relut encore son discours et, frappant le journal du revers de sa main, il disait C'est pourtant bien clair et de tout point victorieux, ce que j'ai dit là. Mes arguments sont indestructibles. Mes remarques subsistent. Oui, disait le frère, mais la lettre. Oh, la lettre, ne précipitons rien. Il y avait hier 5 juges et moi, 6 magistrats unanimes d'opinion. Nous ne sommes pas 6 aveugles. Vous n'avez pas assisté au débat, vous, 1000 personnes distinguées y assistaient. Il n'y a eu qu'une voix. Et les accusés ont-ils avoué leur crime? Non, certes, ils ne l'ont pas avoué. La belle raison. En voyez-vous beaucoup de criminels de cette espèce? Ils se font pendre avant d'avouer. C'est le cœur humain. Les chefs des principales maisons de commerce de Madras arrivèrent bientôt en toute hâte, obéissant à l'ordre qui leur avait été envoyé à domicile. Tous, sans hésiter, reconnurent la main de Mounoussami. « Appelez ici toute l'Inde commerçante, » dit l'ex-grand prévôt. « Vous entendrez la même chose, honorable Attorney. »« c'est possible, » dit le magistrat. « Mais il peut se faire encore que Mounoussami se soit trompé sur le comte de Goulam et Mirpour. C'était un mari jaloux qui, peut-être... » « Eh bien, honorable Attorney, appelez ici Goulam et Mirpour. Appelez la veuve de Mounoussami, vous serez toujours obligé de convenir qu'en tout état de chose, il ne faut pas exécuter aujourd'hui Gabriel Krebs et qu'une nouvelle procédure doit commencer. La lettre de Mounoussami, lue hier à l'audience, aurait sans doute été de quelque poids dans la balance de la justice, c'est incontestable. » Non, 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 cette lettre n'aurait pas détruit l'effet de mon discours. Bon, il y a un passage tiré de Macbeth. Tous les parfums de l'Arabie. Oh, si vous aviez vu l'auditoire, quelle pâleur sur les visages. Non, non, la lettre de Mounoussami. Oh, cependant, il ne faut rien précipiter. Je vais envoyer mes ordres au domicile de Goulam et de Mirpour. Je veux voir aussi la veuve du Nabab, votre frère. Il n'y a pas de concession que je ne fasse pour vous satisfaire dans vos justes susceptibilités. Mais croyez-le bien, Gabriel et Clem sont coupables. Ah, honorable Attorney, s'écria Talaï Perry avec une émotion extraordinaire, ils sont innocents. Je garantis leur innocence sur ma tête. Prenez-moi pour otage, enfermez-moi dans le fort. Et si ces hommes sont coupables, mais faites-moi pendre avec eux. » Talaï Perry avait un accent si persuasif en disant ces paroles que Latournay fut ému lui-même et qu'il déposa l'Evening Chronicle sur son bureau. Le magistrat fit ensuite 2 ou 3 fois le tour de son cabinet sans dire un mot et les yeux fixés sur le parquet. Puis il prit une feuille de papier et la doubla lentement, égalisa les feuillets avec les ongles du pouce et de l'index, et après avoir essayé plusieurs fois sa plume, il écrivit 3 lignes dont il avait l'air de méditer chaque mot. Un bailli fut introduit, le magistrat lui remit un billet pour le gouverneur, et 2 shérifs officiers reçurent aussi de secrètes instructions. « Monsieur Talaï Perry, » dit Latournay, « des ordres vont être transmis pour faire suspendre l'exécution à demain. Je vois clair dans l'affaire maintenant. Il y a d'autres coupables. 4 au lieu de 2. J'en tiens 2, je vais saisir les autres dans l'instant. Vous pouvez vous retirer. La justice vous remercie de votre zèle. Je vous recommande la plus grande discrétion. » Il ne faut pas donner l'éveil aux 2 complices de Krebs et Gabriel. » Et il fit un signe de tête et de main pour congédier Talaï Perry. « Honorable Attorney, » dit celui-ci en sortant du cabinet, « je ne quitte pas votre maison, je reste dans le vestibule, toujours à vos ordres. Mais souvenez-vous bien que Gabriel et Krebs sont innocents. » Latournay dit un signe d'impatience et tourna brusquement le dos à l'Indien. 1 demi-heure après, l'exécuteur des hautes œuvres descendait de son estrade et rentrait en ville sans avoir travaillé ainsi que nous l'avons vu. L'habitation de Goulam et de Mirpour fut bientôt cernée par une escouade de soldats ayant en tête quatre shérifs officiers. Les deux Indiens avaient flairé le danger comme des bêtes fauves plus subtiles que les adornaient. Mais on trouva trois péons de ceux qui avaient déposé dans le procès. Ils furent conduits chez l'attorney général, qui était en conférence avec le juge criminel et le gouverneur, Lord Cornwallis. Là, les trois péons, intimidés par les menaces des magistrats et par l'imposante figure du chef suprême de la colonie, firent des aveux décisifs. Ils dirent que leurs autres compagnons s'étaient embarqués le matin même sur un catamaran qui faisait voile pour Pondichéry et qu'ils avaient reçu des largesses de Goulam. Ils racontèrent les événements de la chasse au tigre tels qu'ils s'étaient passés et déposèrent contre leur propre déposition. Ils s'avouèrent coupables en s'efforçant d'atténuer leur crime, en le rejetant sur Goulam et Mirpour, qui les avaient séduits avec de l'or et des promesses brillantes. L'attorney général leur adressa plusieurs questions tendant à établir la complicité de Gabriel et Krebs. Mais les péons ne connaissaient, dirent-ils, ces deux jeunes Européens que par le courage qu'ils avaient montré sur les rives du Lutschmi lorsqu'ils s'élancèrent seuls au secours de Moulousami dans le plus terrible des moments. Mais, dit l'attorney, c'est sans doute alors que Gabriel et Krebs auraient pu assassiner le nabab, puisqu'ils restaient seuls avec lui. Et ils n'étaient pas seuls, dirent les péons. Il y avait entre l'Indien et les deux Européens 40 tigres assez forts pour dévorer Chinnapatam. Avez-vous vu aujourd'hui Goulam et Mirpour? Demanda le juge criminel. Nous les avons suivis toute la nuit dans les rues de la ville et ce matin, sur la place du gouvernement, ils ont disparu lorsque le bourreau s'est retiré. Nous croyions les retrouver à leur habitation, mais ils n'y étaient pas. Il est clair, comme le jour, dit l'attorney, que ces deux Indiens sont coupables. Mais l'innocent des deux autres n'est pas établi. J'ai dit hier dans mon discours. Lord Cornwallis interrompit le magistrat par un léger mouvement de la main et lui dit, après avoir fait retirer les péons sous bonne escorte, « Mon cher attorney, votre zèle est louable, je l'honore, mais l'œil le plus clairvoyant peut s'égarer une fois. Écoutez-moi, j'ai reçu ce matin la visite de la veuve de Moulousami. J'ai vu les deux prisonniers. J'ai vu le vieux missionnaire catholique qui a passé la nuit auprès de Gabriel. » J'ai vu Talaï Perry, l'ex-grand prévôt, qui jouit à Madras de l'estime générale. Je connais de plus les mœurs de Goulam et de Mirpour, sur lesquels j'exerce depuis longtemps une surveillance particulière. Eh bien, d'après tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a été confié, tout ce que j'ai vu, tout ce que je sais, je n'hésite pas, moi, à déclarer que Gabriel et Clem sont innocents, et que cependant hier un tribunal a pu les croire coupables. Les annales de la justice offrent 100 exemples de ce genre. Il faut se résigner à la légère contrariété de reconnaître l'erreur. Le juge criminel approuva par un geste non équivoque les paroles du noble lord. L'attorney fit un mouvement de bras et de tête qui signifiait « tout ce qu'on voulait », mais on aurait pu voir, un instant après, à la contraction de son nez vulturnien, qu'une violente colère avait été refoulée du fond de son cœur par la suprême parole de Lord Cornwallis, roi du Coromandel. Une bonne heure après cet entretien, Talaï Perry, muni d'un ordre du juge criminel, également revêtu de la signature du gouvernement, se rendit à la prison où déjà deux shérifs officiers avaient signifié au geôlier la sentence d'élargissement. Krebs et Gabriel, rendus à la liberté, furent conduits par Talaï Perry chez le gouverneur qui leur adressa de nobles paroles. « Croyez bien, messieurs, leur dit-il à la fin de leur entretien, que je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire oublier vos cruelles angoisses de ces derniers jours. Venez souvent à mes soirées de réception. Je veux vous serrer la main affectueusement devant la haute société de Madras. Et souvenez-vous que je serai heureux de vous rendre un service de quelque nature qu'il soit, aujourd'hui ou dans l'avenir. » Les deux jeunes gens, émus jusqu'aux larmes, se confondirent en action de grâce et sortirent du palais avec Talaï Perry. Un palanquin élégant, un tandigel, traîné par deux bœufs blancs de la race de ceux qui franchissent en 15 heures les 33 lieues de Madras à Pondichéry, stationnait sur la place avec les deux bouées, ses conducteurs. Talaï Perry montra le palanquin aux deux Européens et les invitant à y prendre leur place. « Où nous conduisez-vous, notre noble ami ?» demanda Klebs. « À notre habitation de Tinnevelly, » répondit l'Indien. « C'est passé de l'enfer au paradis, » dit Gabriel. « Vous vous trompez, » dit l'Anglais à l'oreille de Gabriel. « Je crois, moi, que vous ne ferez que changer d'enfer. » Gabriel soupira profondément et ne répondit que par un silence expressif. Comme le palanquin traversait le pont des Arméniens, Talaï Perry montra l'habitation de Goulab aux deux amis. Elle était toujours cernée par des soldats, et malgré l'éloignement, on pouvait distinguer, par les larges croisées ouvertes, des groupes d'officiers de police qui continuaient leurs perquisitions. « Oh ! » dit Talaï Perry en allongeant le bras hors du palanquin. « Cherchez, cherchez l'éléphant, vous ne le trouverez pas. Il faut d'autres yeux pour le voir et d'autres mains pour le saisir. » Gabriel et Klerps, bercés par le palanquin et vaincus par le sommeil, après plusieurs nuits d'insomnie brûlante, s'étaient endormis profondément. Chapitre 6. L'habitation du lac. Dans cette vie, il ne faudrait jamais revoir ce qu'on a vu avec plaisir une première fois. Le retour est fatal. L'homme le plus heureux serait celui qui marcherait toujours devant lui, à travers les 9 000 lieues qui cerclent notre petit globe, en disant des adieux éternels à tous les bonheurs de surprise qu'il rencontrerait. Rentré à l'habitation du lac, Gabriel n'y avait rien trouvé de ce qu'il attendait. Eva était absente. Elle passait dans une modeste maison de Madras les premiers mois de son veuvage et ne recevait d'autre visite que celle de son beau-frère Talaï Perry. L'opulence qui éclatait dans la maison de campagne de Moulousami avait disparu avec le maître. Plus de grands festins, plus de convives, plus d'amour, plus de gaieté. Un silence de mort régnait aux appartements inférieurs. Les oiseaux passaient entre les lames de persiennes. Des guirlandes de fleurs desséchées tombaient des kiosques comme des chevelures de désolation. Les gerbes d'eau ne dépassaient plus le marbre des bassins. L'Éden avait perdu son Ève. Gabriel et Klerps, grâce aux bontés de Talaï Perry, auraient pu se croire les maîtres de cette maison. Le sage indien voulait, par la plus grande hospitalité, leur faire oublier des nuits et des jours bien cruels et honorer en même temps le courage qu'ils avaient montré sur les rives du Lutschmi quand ils se précipitèrent héroïquement au secours de son frère. Le nombre des domestiques attachés au service de l'habitation n'avait pas été diminué, mais presque tout le personnel en était changé. Quelques Indiens d'une fidélité éprouvée avaient échappé seuls à cette épuration. Des serviteurs anglais remplaçaient les péons douteux ou traîtres. L'intelligence qui avait présidé à l'établissement de cette domesticité nouvelle témoignait assez de l'intérêt qu'Eva apportait encore à cette maison, et Gabriel en concluait que la belle veuve quitterait les ennuis de Madras lorsque les convenances le permettraient. Les deux amis, servis par une vingtaine de domestiques, menaient une vie assez monotone, la seule qui ressemble au bonheur. Clerps songea sérieusement à remplir le but de sa mission scientifique, et il consentit à visiter, assis dans un fauteuil, la vaste bibliothèque de Munusami pour y découvrir l'histoire des Malabar. Gabriel allait à la chasse au Turaco, dans la vaste forêt qui s'étendait de la terrasse de la maison à la montagne. Souvent, le jeune savant, aventuré sur les hauteurs de Tinnevelly, jetait un regard mélancolique sur la double haie de grands arbres qui ombrage la route de Madras, et dans chaque plaine du vent, il croyait reconnaître le bruit sourd des roues du Tandigel, qui devait ramener Eva sous les douces et flottantes arcades de ces néfliers du Japon et devant les volières aux treillis d'argent où 1000 oiseaux dorés appelaient leur jeune maîtresse au lever du soleil et au tomber du jour. Un matin, Clerps descendit de son appartement en habit de voyage et fit ses adieux à Gabriel. Il partait, disait-il, pour visiter la province de Carnatic et passer quelques jours à Tranquebar. D'après de nouveaux renseignements, il comptait découvrir dans cette excursion le manuscrit de l'histoire des Malabar. Gabriel ne pouvait accompagner son ami. Son destin était lié désormais à cette habitation solitaire que la présence d'une femme devait peubler bientôt de toutes ses grâces, de tous ses enchantements. « Mon voyage ne sera pas long, » dit Clerps en serrant les mains de Gabriel. « Et pour l'abréger encore, je ne me donnerai aucune peine pour trouver ce que je cherche. » « Malheur à qui cherche, il ne trouve jamais. » Je me laisserai découvrir par l'histoire des Malabar, allez, adieu, et ne chasse jamais au tigre. Adieu, Krebs, dit Gabriel, reviens-moi bientôt et écris-moi. À ton retour, tu me retrouveras peut-être fiancé. Mon cher ami, dit Krebs en montant à cheval, je crains que la belle veuve ne se soit brûlée incognito sur le tombeau de son mari, selon l'usage indien. Les mains des deux amis s'agitèrent quelque temps encore pour échanger de loin des saluts, et Clerps disparut au galop dans les massifs d'ébéniers. Gabriel recommença une vie d'isolement qui ne pouvait lui donner aucune distraction salutaire. Chaque jour, il se préparait à voir lever à l'horizon de Madras l'étoile d'amour attendue, et chaque soir, lorsque les ténèbres couraient avec les bois autour du lac, comme un rempart d'ébène, et que les solennelles harmonies des nuits indiennes s'élevaient dans de mystérieux lointains, il sentait que l'espoir conçu à l'aurore, sous des nuages de rose, s'échappait avec le dernier reflet du crépuscule, éteint à l'horizon de la mer. Le jeune homme comprenait qu'il y avait autour de lui une atmosphère de deux poisons, et devant lui un avenir assombri de toutes ses incertitudes. Mais il n'avait pas la force de fuir. Il était opprimé par un souvenir d'amour contre lequel il n'y avait plus de résistance secourable. Voir une belle et jeune femme dans quelques bourgeoises et froides résidences d'une ville d'Europe, dans une étroite cage de maison, la quitter par un escalier gluant, penser à elle sur le pavé pluvieux d'une rue bruyante et l'oublier le lendemain. C'est là ce qu'il est aisé de faire et ce que tous les hommes ont fait. Mais il renaît de lui-même comme le foie de Prométhée, l'amour, qui éclata dans un festin un soir, sous des étoiles sereines, dans le ravissement d'un paysage inconnu, au milieu des parfums qui montent de la terre au ciel, au milieu des fleurs qui jouent dans les cheveux de la femme, au milieu d'une fête qui vous enlève à la réalité de ce monde et vous fait toucher votre plus beau rêve. Un pareil souvenir ne s'évapore plus. Toujours dans les ennuis qui sonnent avec les heures, On revoit ce festin, ces étoiles, ces fleurs, cette fête, tout ce cortège étincelant qui s'unit à la femme aimée et fait corps avec elle, et l'élève si haut dans le délire de la passion que toute autre femme semble n'être plus que l'ombre dérisoire de cette reine qui porte avec elle toutes les joies du ciel et de la terre. Gabriel, seul maître de cette maison, retrouvait à chaque pas devant lui la femme absente et adorée. Il y avait partout de délicieuses négligences, de charmants caprices qui attestaient le passage d'Eva, et le lori familier qui déployait ses ailes peintes sur le perchoir d'érable, trompé lui-même par toutes les brillantes fantaisies amoncées au salon sur les lacs et les émaux de Chine, entonnait un chant de joie et secouait gracieusement sa jolie tête pour demander un baiser à des lèvres de corail. C'était partout un éblouissant chaos de toutes les futilités heureuses qui s'embaument aux mains de la femme. Des éventails semés d'oiseaux bleus s'échappant d'un kiosque chinois. Des nuages de broderies délaissés avec une adorable nonchalance. Des vases du Japon sur lesquels une main folâtre avait noué au couvercle un nœud de ruban sur la vénérable tête de Brahma. Des cristaux à vives arêtes dont la gueule évasée laissait tomber des tulipes flétries. Des dieux de porcelaine à demi brisés. Un échiquier avec toutes ses pièces renversées dans un accès de colère enfantine sous le coup d'un mat trop précoce. La main d'Eva était partout. Absente, elle habitait sa maison. Le beau-frère d'Eva, le sage Talaipéri, quand il revenait de Madras à l'habitation du lac, disait quelquefois à Gabriel « Nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir vous donner quelques distractions, quelques amusements de campagne. Mais vous comprenez mieux que personne notre position. L'habitation est en deuil. » Cependant, le temps, ce Dieu qui console, vous fera, j'espère, de meilleurs jours au sein de notre famille et de quelques bons amis. Gabriel répondait que cette solitude était pour lui pleine de charme, qu'il pouvait y exercer royalement sa passion favorite, la chasse, et qu'ensuite il trouvait deux excellents remèdes contre l'ennui, l'étude et la méditation. Sur ces entrefaites, Gabriel reçut une lettre de Cléops. Elle était ainsi conçue. Tranquebar, juin 1800. Mon cher Gabriel, je n'ai pas encore eu le bonheur de trouver l'histoire des Malabar. Il est vrai que j'ai eu le malheur de la chercher. J'ai fouillé la province de Carnatic et la pagode de Vilnour, qu'on m'avait désigné comme une bibliothèque d'histoires indiennes. Fiez-vous aux renseignements. La pagode de Vilnour est en ruine. Ce n'est plus qu'un recueil de serpents. Décidément, je ne cherche plus. L'autre soir, une société de jeunes Anglais m'a proposé de faire le septième dans une chasse aux tigres sur les bords du fleuve Kaveri. Il y a tout près de Tranquebar, disait-il, un vieux fort ruiné qui est un club de tigres. J'ai fait 1000 remerciements à ces messieurs. Assez de tigres, n'est-ce pas, Gabriel? Je puis recevoir une lettre de vous à Tranquebar, et votre lettre écrite, ne m'écrivez plus, nous parlerons de près, cela vaut mieux. Votre bien dévoué, Edward Cleps. La réponse que fit Gabriel à cette lettre est le récit de quelques événements survenus la veille à l'habitation du lac. La voici. Mon cher Cleps, votre lettre m'a porté bonheur. Une chose heureuse n'arrive jamais seule, Eva est ici. Hier, au retour de la chasse, à 4 heures du soir, deux piqueurs ont fait trembler sous leur galop la grande allée de Nocléa. « Voici madame !» ont dit les domestiques. Talaipéri est descendu sur la terrasse pour recevoir la reine du Tinnevelly. Moi, je n'ai su quel poste m'a signé, Il me semblait que j'étais déplacé partout. J'aurais voulu être sur les arbres avec les oiseaux. Deux palanquins se sont arrêtés devant le Chatiram. Dans le premier, il y avait les femmes d'Eva. Je n'ai pas vu l'éblouissante forme qui descendait du second. Mes yeux se sont fermés. Quand je les ai rouverts, Talaï Péri me présentait à Eva. J'ai senti la terre onduler sous mes pieds. Ma poitrine s'est gonflée et ma langue s'est desséchée d'amertume. Mon front a brûlé les racines de mes cheveux. J'ai balbutié une de ces phrases de présentation qui sont admises comme ne devant rien signifier. La mienne était issue d'anglais, de français, de malais et de hollandais. Je n'ai pas entendu ce qu'Eva m'a dit. Mes oreilles sont trop grossières pour recueillir la mélodie angélique descendue des lèvres de cette femme. Cependant, je me suis révolté contre moi-même et j'ai fait un énergique appel à mon courage comme si j'eusse été en face d'un extrême péril. Oh, j'ai senti que ma destinée était invinciblement liée à cette femme, que ma vie était dans elle. On n'a qu'une fois des pressentiments aussi lumineux. Elle a été faite pour moi. Un autre l'avait prise contre mon droit. Il est mort, elle est veuve, l'ordre est rétabli. Heureusement, dans ce monde qui l'entourait, personne n'a remarqué mon émotion. Tous les yeux ne regardaient qu'elle. Les plus vils esclaves ennoblissaient leur visage en regardant le sien. Les autres m'ont enhardi, j'ai levé mes yeux sur elle, et je n'ai rien vu qu'elle après. Elle portait d'une robe de deuil plus rayonnante que la plus belle parure de bal. Une gaze transparente essayait de couvrir ses bras. Son cou, dépouillé de ses ornements, s'élevait blanc et pur, encadré par l'ébène fluide des cheveux et le noir du corsage. Une légère teinte de tristesse semblait lutter sur son visage contre le sourire près de poindre. Ses yeux n'annonçaient pas trop de larmes répandues. Ils avaient l'éclat velouté de l'iris et la limpidité du diamant. Lorsqu'elle a paru dans la première salle, il y a eu dans les volières une furie de chants de joie et un frémissement d'ailes qui l'ont fait tressaillir de bonheur. Décidément, sa tristesse de veuve n'était pas désespérante pour moi. J'attendais qu'elle me parlât, j'avais soif de ses paroles, et pourtant je désirais me confondre parmi ses serviteurs qui sont arrêtés sur le seuil de la salle et sont rentrés dans leurs ténèbres et leur néant. Elle s'est assise, elle a dénoué le madras à la créole qui couvrait le haut de sa tête. Elle a pris un éventail et nous a prié de nous asseoir à côté d'elle, son beau-frère et moi. J'ai obéi machinalement. Un miroir voisin m'a dit que j'étais affreux de pâleur. Je n'ai pas eu le temps d'analyser mes sensations. Je les subissais en renvoyant mon autopsie morale à de plus calmes moments. « Monsieur, m'a-t-elle dit, j'attendais cette occasion. » Pour vous exprimer combien je vous suis reconnaissante de votre noble conduite sur les bords de Lutschmi, et combien j'ai souffert en apprenant la fatale méprise qui vous a donné tant de tourments. La confusion de Babel est retombée sur ma langue. Aucun interprète n'aurait pu traduire ma réponse. J'étais jaloux de ces oiseaux qui avaient pu lui répondre des concerts dignes d'elle et qui se pressaient au treillis des cages pour se suspendre à son cou d'ivoire comme un collier d'émeraudes vivantes et de rubis ailés. Heureusement, elle a cru que je lui avais répondu quelque chose, et elle a ajouté « Votre ami, Sir Edward Krebs, vous reviendra-t-il bientôt ?»« Bientôt, ai-je répondu, comme un écho sec, qui ne rentre exactement que ce qu'on lui donne. » « C'est un jeune homme digne de toute estime, m'a-t-elle dit en appuyant sur chaque mot. Sir Edward a l'esprit français, fondu dans le flegme britannique. Mon mari l'aimait beaucoup. Je sentais que je reprenais mes esprits, et deux mots bien simples que je dois hélas entendre souvent m'ont de nouveau bouleversé. Vous ne sauriez croire tout ce que j'ai souffert d'aigu et de glacé à ces deux mots « mon mari ». Ils emportaient avec eux tant de pouvoir d'un côté, tant de soumission de l'autre. Je n'aurais jamais cru que dans de certaines conditions ces deux mots fussent aussi désolants. L'arrivée de deux étrangers qui suivaient de près le palanquin d'Eva m'a soulagé quelques instants. Ce sont les avocats ou hommes d'affaires qui viennent s'établir ici pour débrouiller le chaos d'une immense succession. Oh, ils étaient à leur aise, ceux-là. Ils sont entrés comme ils entrent chez eux. Ils ont salué Eva ainsi qu'ils auraient salué une femme ordinaire. Mais comment se fait-il que tout homme qui la voit pour la première fois ne tombe pas à ses pieds? Le plus âgé de ces hommes d'affaires a ouvert deux croisées pour mieux examiner la salle, car le jour baissait. « Ceci est très beau, » a-t-il dit, « très beau. Toute la maison est de même sans doute. C'est du vrai luxe anglo-indien. Le mort avait du goût. Mais dans ce désert, oh, tout cela ne vaut pas 10 000 piastres. Nous en aurions 50 000 aux portes de Manas. Dans un immeuble, la position est tout. Les dépendances étant-elles bien loin, madame ?»« Monsieur, » a répondu Eva, « il est tard, je suis un peu fatigué. Vous causerez de ces choses ennuyeuses avec mon beau-frère. On va sonner le dîner dans l'instant. » Elle nous a gracieusement salués et je l'ai suivie des yeux, tant qu'elle a été visible, à travers les salles et les galeries, qu'éclairait encore le rayon horizontal du soleil couchant. « Excusez-moi, Krebs, de vous raconter minutieusement tous ces détails. Je sais, en les écrivant, que chacune de mes phrases est accueillie par votre sourire ailleurs. Mais je vous pardonne votre esprit. J'aime mieux que vous l'exerciez contre moi que contre un autre, parce que vous aurez échappé par miracle aux yeux de cette femme. Vous avez une fierté intolérante, un peu de pitié, je vous prie. » Pour l'ami, moins heureux que vous. Au dîner, nous étions 5. La conversation s'était établie entre Talaipéry et les hommes d'affaires sur la prééminence commerciale que l'avenir réservait à Calcutta aux dépens de Madras. Les hommes ne savent jamais ce qu'il faut dire devant une femme. Je suis sûr que mon silence pendant cette conversation a été favorablement remarqué par Eva. Une femme nous distingue souvent pour la plus mince nuance de conduite et d'à propos. C'est une erreur de croire qu'il faut gagner des batailles et se faire couronner de laurier pour plaire à une femme. Il faut quelquefois se taire et rester immobile quand les autres parlent et s'agitent à ses côtés. Krebs, vous devez me trouver bien vain, n'est-ce pas ? Mais il ne tenait qu'à moi de garder mon orgueil au fond du cœur, à l'exemple de ceux qui s'appellent modestes. J'ai mieux aimé vous envoyer ma pensée la plus secrète, tout en relief sur une feuille de papier. Au reste, je me trouve si absurde, depuis l'arrivée d'Eva, que j'ai besoin, pour ne pas me désespérer, de me savoir gré de la moindre chose qui puisse me relever à ses yeux. Je vous écris au milieu de la nuit, ma lettre devant partir à la pointe du jour. La maison est calme à 7 heures, mais cette tranquillité ne ressemble pas à celle de l'autre nuit. On sent que la déesse est rentrée au temple. On sent que cette vaste habitation a maintenant une âme, que ce silence est bruyant, que ce désert est peuplé. Il y a un souffle enivrant qui agite les fleurs des kiosques et le clavier des persiennes. Il y a une animation divine qui circule dans l'air et l'embaume. Il y a même dans la nature une expansion de molles extases qui semble ne venir du ciel que pour moi. Adieu, Krebs, adieu, mon vieux compagnon de 2 jours. Arrivez, arrivez. Je serai plus fort quand je serai deux. Gabriel N. Post-scriptum. Goulad et Mirpour, ce sont des Roméo poursuivis de la justice. On les a vus se pavaner en costume européen sur le port à Pondichéry. D'autre part, on affirme qu'ils se sont embarqués pour Batavia. N'acceptez aucune chasse aux tigres. Ne vous laissez pas entraîner par ces graves fous, vos compatriotes. Oui, vous avez raison, assez de tigres. Le nom seul de ces animaux me zèbre la peau de l'âme de feu. Mon tourac au blanc est sans doute perché sur le volume de votre histoire des Malabar. G. Gabriel plia cette lettre et la déposa sur la table à côté de son lit pour ne pas oublier à son réveil de la donner au Talinga. Puis il voulut respirer quelques instants l'air de la nuit et la fraîcheur du lac et s'accouda sur le balcon de sa croisée, à demi voilée par des réseaux de fleurs grimpantes à clochettes.